L'un des méchants les plus célèbres de la littérature mondiale n'était à l'origine qu'un simple auditeur comptable céleste.
C'est vrai que formulé comme ça, ça a de quoi faire sursauter.
Ah bah clairement, surtout quand on pense à l'image super traditionnelle qu'on a tous du grand adversaire cosmique, tu vois.
Le fameux prince des ténèbres, oui.
Exactement. Et aujourd'hui, pour notre exploration du jour, on s'attaque à un monument absolu, le livre de Job.
Un texte fascinant et surtout très complexe.
Très complexe, ouais. Et plus particulièrement à cette scène d'ouverture au ciel qui a été, enfin disons-le franchement, radicalement mal comprise au fil des siècles.
Complètement faussée par nos a priori culturels, en fait.
Voilà, c'est ça le truc. Donc, notre guide pour cette analyse aujourd'hui repose sur les notes de cours du docteur John Walton. Plus précisément, sa session 9, partie 1.
Ce qui nous donne une base académique vraiment solide pour aborder le sujet.
Tout à fait. Et l'objectif de cette plongée à approfondie, la mission de notre discussion, c'est de déconstruire ce personnage mythique.
Pour comprendre comment, finalement, des siècles de présupposés ont totalement déformé notre compréhension d'un personnage clé.
C'est exactement ça. Parce que, pour quiconque écoute en ce moment, c'est assez rafraîchissant et même un peu déconcertant, à pas se mentir, de réaliser qu'une figure perçue comme l'incarnation du mal absolu pourrait ressemblait davantage à un bureaucrate.
Un bureaucrate en train de faire un bête compte-rendu d'évaluation des risques, oui.
C'est fou. Genre, ça promet de véritables moments de révélation sur la façon dont on interprète les écrits millénaires.
Bah, le premier chapitre de Job, c'est effectivement un champ de mine théologique et littéraire. On a tellement l'habitude de plaquer des concepts super modernes sur ces textes anciens qu'on en perd, la structure originelle.
On lit le texte avec nos lunettes du 21e siècle, quoi.
C'est exactement ça. Et pour saisir la vraie nature de ce personnage controversé, il faut d'abord planter le décor, examiner son environnement de travail, en fait.
Donc, la salle de réunion cosmique.
Voilà. Le récit ne commence pas sur Terre avec Job. Il commence dans une cour céleste, au cœur de ce que les spécialistes appellent le Conseil divin.
D'accord.
Yahvé tient une audience formelle, une sorte de réunion de restitution avec les fils de Dieu. Ce sont les membres de ce conseil céleste.
Et ils viennent faire leur rapport, c'est ça?
C'est ça. Ils se présentent pour rendre compte de leurs activités. Et là, attention, il y a un piège conceptuel immédiat à éviter.
Lequel?
Le texte ne suggère en aucun cas que Dieu aurait besoin de ces rapports par manque d'omniscience.
Ah oui, genre il ne découvre pas les informations?
Non, pas du tout. La souveraineté et la connaissance divine ne sont absolument pas remises en question ici. Dieu sait déjà tout.
Donc c'est un peu... C'est un peu comme imaginer un grand PDG, tu vois.
Un PDG cosmique.
Ouais, un dirigeant d'entreprise absolument omniscient qui connaîtrait déjà, genre, chaque ligne du bilan financier.
Chaque indicateur de performance de chaque département.
Exactement.
Avant même d'entrer dans la pièce, il sait tout.
Mais il tient quand même cette grande réunion d'équipe hebdomadaire dans la salle de conférence, simplement parce que c'est son style de gestion.
C'est une excellente analogie.
Il choisit de structurer son entreprise de cette manière, pour impliquer ses collaborateurs, pas parce qu'il a besoin qu'on lui explique les chiffres.
Et le docteur Walton souligne bien que ce n'est pas une anomalie isolée dans le livre de Job. Hein. La littérature biblique regorge de ce motif.
Ah ouais, on trouve ça ailleurs?
Plein de fois. Par exemple, dans le premier livre des Rois, au chapitre 22, on voit un prophète décrire Yahweh siégeant sur son trône avec toute l'armée des cieux à sa droite et à sa gauche.
Donc le même genre de conseil d'administration.
Tout à fait. Et dans Ésaïe 6, on a cette fameuse interrogation divine. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous?
Ce « nous » implique un groupe, une prise de décision partagée.
Ou du moins débattue en conseil, oui. Le psaume 82 décrit également Dieu se tenant dans l'assemblée divine.
D'accord. Mais juste une question de clarification, parce qu'il y a un truc qui me chiffonne.
Je t'écoute.
Ce conseil divin, c'est la même chose que les panthéons qu'on voit dans les cultures voisines de l'époque, genre les Babyloniens ou les Cananéens?
Ah, très bonne question. Et non, la différence est radicale. Ce ne sont pas des dieux rivaux luttant pour le pouvoir suprême.
Ce n'est pas Game of Thrones au ciel, quoi.
Pas du tout. C'est une bureaucratie céleste totalement soumise. Une cour d'agents qui exécute la volonté d'un seul souverain incontesté.
Mais attends, si on part du principe que ce souverain est omnipotent et omniscient, pourquoi s'encombrer de tout ce système?
C'est vrai que ça peut paraître contre-intuitif aujourd'hui.
Mais oui, ça semble presque terriblement inefficace en fait. Pourquoi un être suprême, capable de tout régler par la simple pensée, aurait besoin de déléguer, d'écouter des rapports, de gérer de la paperasse cosmique?
C'est sûr que vu sous l'angle de l'efficacité moderne...
Ce serait plus simple d'agir directement, non?
Ce qui est fascinant ici, c'est que la question de l'efficacité est justement une préoccupation très très moderne.
Ah, on plaque encore nos concepts sur le texte.
Exactement. Pour le public antique israélite, la puissance, bah, ça ne se concevait pas dans l'isolement.
D'accord, un roi seul n'est pas vraiment un roi.
Voilà. Un roi puissant dans le Proche-Orient ancien gouvernait nécessairement avec une cour majestueuse. Des conseillers, des émissaires, des armées.
Sans ça, il avait l'air faible.
Un roi sans cour était perçu comme un roi faible. Le texte utilise donc ce cadre politique et sociétal hyper précis pour rendre l'action de Dieu intelligible pour les lecteurs de l'époque.
C'est un code culturel, en fait.
Le docteur Walton appelle ça un accommodement littéraire. On décrit le gouvernement cosmique de Dieu en utilisant la structure d'autorité absolue la plus familière pour les humains de cette période.
Ce qui était le plus impressionnant pour eux, c'était d'avoir plein de serviteurs.
C'est ça. Donc ce conseil divin, c'est un moyen de communiquer la grandeur de Dieu plutôt qu'une limitation de ses capacités.
Bon, décortiquons un peu tout ça. On a donc cette immense salle de réunion céleste, tout le monde est présent, et c'est là qu'intervient notre fameux personnage controversé.
La star de l'introduction, si on veut.
C'est ça. Et je crois que c'est le moment où la grammaire hébraïque vient complètement détruire nos idées reçues.
Ah ça oui, c'est le point de bascule.
Parce que pour quiconque lit ce texte en traduction, que ce soit en français ou en anglais d'ailleurs, le choc visuel initial est immense.
On voit un grand S majuscule.
Voilà, un S majuscule, Satan. Et dès que cette majuscule apparaît, pour notre audience moderne, le cerveau fait immédiatement le lien avec le diable.
Les flammes, l'enfer, le tentateur suprême.
La rébellion cosmique, tout ça. Ce simple nom propre transporte un bagage culturel et théologique tellement écrasant qu'on ne peut pas s'en défaire.
Et le problème, c'est que cette majuscule est une erreur d'interprétation fondamentale.
Ah oui, carrément.
Oui, parce qu'elle est basée sur une traduction qui ignore la réalité grammaticale de l'hébreu ancien. Le docteur Walton insiste lourdement sur ce point précis.
Qu'est-ce que dit le texte original, du coup ?
Dans le manuscrit hébreu original, le terme utilisé est « ha-satan ».
Ha-satan. Okay.
Le préfixe « ha », en hébreu, c'est l'article défini. C'est l'exact équivalent du « le » ou de « la ».
Ah, l'article défini.
Or, dans cette langue, comme en français d'ailleurs, on n'attache pas un article défini à un nom propre pour désigner une personne.
Bah oui, on ne dit pas « le Pierre » ou « la Marie » dans un texte littéraire classique. Ça ferait très bizarre.
Exactement. La présence de cet article défini prouve de manière totalement irréfutable qu'il ne s'agit pas d'un nom propre.
Donc pas du diable avec un grand D ?
Non, c'est un titre ou une fonction professionnelle. La bonne traduction devrait être « le Satan » avec un S minuscule.
Mais c'est un truc de fou de penser qu'une simple règle de grammaire, juste un petit article, modifie l'identité entière d'un personnage millénaire.
Ça change absolument tout le sens du texte.
C'est la différence entre, comment dire, quelqu'un dont le nom de famille serait Monsieur Boulanger.
Oui, très bon exemple.
Et quelqu'un dont le métier est d'être le boulanger du village, tu vois.
L'un définit qui il est de manière inhérente, et l'autre définit la fonction qu'il occupe dans la société à ce moment-là.
Exactement. Alors, si c'est une fonction, le terme Satan, en tant que mot hébreu, il veut dire quoi à la base ?
C'est un mot hébreu tout à fait ordinaire, utilisé très couramment à l'époque. Il peut fonctionner comme un verbe ou comme un nom commun.
D'accord.
En tant que verbe, il signifie simplement s'opposer, faire obstacle, contester ou agir comme un adversaire.
Juste une opposition neutre, en fait.
Voilà. Et en tant que nom, ça désigne celui qui s'oppose, l'adversaire de circonstance. Dans un cadre juridique, ce serait la figure du procureur.
Celui qui soulève des objections et lance des accusations formelles au tribunal.
Tout à fait. Et pour bien comprendre que ce terme n'est pas lié à une entité intrinsèquement maléfique, Walton cite des exemples bibliques très frappants.
Où le mot est utilisé pour d'autres personnes.
Oui, où ce rôle est assumé par des acteurs super inattendus.
Donc, si je comprends bien, on pourrait très bien voir des êtres humains normaux qualifiés de « Satan » dans l'Ancien Testament.
Absolument.
Simplement parce qu'ils s'opposent à quelqu'un d'autre. Genre des armées ennemies ou des rivaux politiques.
C'est exactement ce que révèlent les textes. Dans le Livre des Rois, des souverains étrangers qui s'opposent militairement et politiquement au roi Salomon sont littéralement décrits en hébreu comme des satans.
Ce sont des rivaux géopolitiques, pas des démons avec des cornes.
C'est ça. Mais l'exemple le plus spectaculaire, celui qui déstabilise le plus les certitudes modernes, se trouve dans le Livre des Nombres.
Au chapitre 22, c'est ça ? L'histoire de Balaam ?
Oui. Le prophète Balaam est en route pour accomplir une action que Dieu désapprouve. le texte dit que l'ange de l'Éternel, l'ange divin par excellence, se place au milieu du chemin avec une épée dégainée pour lui barrer la route.
Il vient l'arrêter, quoi.
Et le texte hébreu déclare explicitement que l'ange de l'Éternel se tient là en tant que Satan pour Balaam.
Waouh ! Attends, il faut vraiment faire une pause là-dessous pour que notre audience réalise bien. L'ange de l'Éternel, la représentation la plus pure et directe de Dieu lui-même, endosse le rôle de Satan.
Dans ce verset, oui. Littéralement.
C'est juste stupéfiant. Ça prouve définitivement que le mot ne désigne pas une créature corrompue ou maléfique.
C'est simplement une posture d'opposition momentanée. L'ange s'oppose à Balaam, il est donc son Satan sur cette route.
D'accord. Et est-ce qu'on trouve d'autres utilisations de ce mot pour des êtres célestes ?
Si on relie cela à une perspective plus large, on réalise que l'utilisation du mot Satan pour désigner un être non humain est en réalité extrêmement rare dans tout l'Ancien Testament.
Ah oui, à part Job.
Au-delà de Job, on trouve une mention dans Zacharie 3. Là, le Satan joue le rôle d'un procureur céleste s'opposant au grand prêtre.
Un rôle juridique donc.
Et il soulève des accusations qui, techniquement parlant, sont d'ailleurs valides d'un point de vue légal dans le texte.
Il fait juste son boulot d'avocat général, en gros.
Exactement. Et on trouve une autre mention dans le premier livre des Chroniques, chapitre 21, où un Satan incite le roi David à faire un recensement.
Et c'est tout ?
C'est à peu près tout. Cette rareté absolue démontre qu'à l'époque de la rédaction de ces textes, il n'existait pas de mythologie développée autour d'un prince des ténèbres.
Un méchant unique et omniprésent, quoi.
Voilà, ça n'existait pas encore dans leur conception du monde.
Eh ben, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, ok, grammaticalement, ce n'est pas le diable avec un grand D, j'ai bien compris.
D'accord.
Mais regardons un peu les actions de ce personnage dans le livre de Job quand même, hein.
Oui, le bilan est lourd.
Super lourd. Il détruit une famille entière. Il provoque la mort de 10 enfants dans l'effondrement d'une maison. Il ruine un cheptel immense.
Il détruit son économie, oui.
Et il finit par frapper un homme intègre d'une maladie de peau atrocement douloureuse.
C'est une catastrophe totale.
Mais du coup, comment on peut justifier une telle avalanche d'atrocités en affirmant qu'il ne s'agit pas de malveillance pure ? Si ça ressemble à un monstre et que ça agit comme un monstre, pourquoi ne pas l'appeler un monstre ?
C'est vraiment le nœud du problème moral de ce livre. Et pour le comprendre, il faut accepter de changer totalement de paradigme de lecture.
D'accord. Comment on doit le lire alors ?
Déjà, le docteur Walton propose d'abandonner le mot « Satan » dans les traductions, pour éviter la confusion. Il suggère d'utiliser le terme « le challenger ».
Le challenger. J'aime bien, c'est plus neutre.
Ce challenger est un agent de Dieu, un membre assermenté du conseil divin. Il n'est pas un rebelle infiltré ou un ennemi de la couronne.
Il fait partie de l'équipe.
Oui. Lorsqu'il parcourt la terre et revient faire son rapport, il accomplit une mission d'évaluation. Il exécute les directives du souverain.
Donc la violence de ce qui arrive à Job n'est pas le fruit d'une haine personnelle.
Non, il n'y a aucune vendetta personnelle de la part de ce fonctionnaire céleste.
Mais quelle justification il peut y avoir à cibler spécifiquement cet homme-là ? Un homme que le texte lui-même, dès le premier verset, décrit comme le plus juste de son époque.
La clé réside dans la nature du débat qui s'ouvre au conseil. Le challenger ne cible pas Job par cruauté gratuite. Il remet en question une politique de gouvernance divine.
Une politique ?
Oui.
C'est-à-dire ?
Le challenger pointe une faille potentielle dans le système mis en place par Yahweh. Son argument est d'une logique implacable.
Explique-moi ça.
Dieu a construit un univers où la droiture est récompensée par la prospérité, la richesse et la protection.
C'est le principe de rétribution.
Tu fais le bien, tu as des bénédictions.
Voilà.
Le challenger demande donc, comment savoir si les humains, et Job en particulier, sont justes par véritable dévotion ou s'ils le sont simplement parce que c'est la stratégie la plus rentable.
Ah, je vois. Job te sert-il pour rien ?
Exactement. Job n'est-il pas simplement en train d'acheter des bénédictions par un comportement irréprochable ?
C'est fou. C'est exactement comme cet auditeur interne cynique qui débarquerait dans le grand bureau du PDG.
Je reprends ton analogie d'entreprise, oui.
C'est ça. Il débarque et il dit... Votre système de primes de fidélité fausse toutes nos données sur l'engagement des employés. Vos directeurs ne sont pas loyaux envers la vision de l'entreprise. Ils restent juste parce qu'ils sont extrêmement bien payés.
Enlever l'argent, on verra leur vraie nature.
Voilà. Supprimer les bonus de fin d'année et on verra instantanément si leur dévouement est réel.
Et du coup, Job se retrouve au centre de cette expérience, non pas parce qu'il est détesté par le challenger, mais au contraire, parce qu'il est le meilleur dossier de l'entreprise.
C'est l'employé du mois, tous les mois?
Pour tester la théorie jusqu'à ses limites absolues, il faut prendre l'employé le plus exemplaire.
Ton analogie est particulièrement juste. Job est le cas test clinique par excellence. Et c'est ce qui explique le comportement très spécifique du challenger dans le récit.
Un comportement très froid, du coup.
Oui. Le docteur Walton fait remarquer une absence frappante dans tout ça. Dans toute l'histoire, le challenger ne montre aucun des attributs que l'on associe habituellement aux forces démoniaques.
Aucun ricanement sadique face à la souffrance.
Rien de tout ça. Aucune tentative de tentation perverse pour pousser Job au vice.
Pas de possession, pas de mensonge chuchoté à l'oreille.
Exactement. Le challenger pose un diagnostic institutionnel, il propose un protocole de test radical et l'exécute avec une neutralité administrative qui est, à bien des égards, profondément troublante.
C'est une neutralité glaçante, nettement. Mais le résultat reste la désintégration complète d'une vie humaine, de sa famille.
C'est une tragédie absolue sur le plan terrestre, oui.
S'il ne s'agit que d'un audit de politique divine exécuté par un subordonné neutre, la responsabilité finale de ce carnage doit bien reposer sur quelqu'un.
C'est la grande question.
Le texte ne peut pas simplement ignorer le poids moral de cette souffrance insensée. C'est pas possible.
Eh bien, le texte ne l'ignore pas. Et c'est même le point culminant de l'analyse conceptuelle du docteur Walton.
Et ça risque de piquer un peu, non?
C'est le point qui bouscule le plus la théologie moderne. Le récit biblique attribue clairement, et sans aucune ambiguïté, la responsabilité à Dieu lui-même.
À Dieu.
Directement.
Directement.
Au chapitre 2, lors de la seconde réunion du Conseil céleste, Yahvé s'adresse au challenger et il lui dit textuellement « Tu m'as incité à le ruiner sans raison. »
Waouh ! Tu m'as incité.
Le verbe hébreu indique que c'est Dieu qui assume l'action. Il a autorisé et validé le protocole de test. C'est lui qui a frappé Job.
C'est lourd à encaisser.
Et il est d'ailleurs fascinant d'observer que Job lui-même, ainsi que sa femme et ses amis, attribue toujours la source de la calamité directement à Dieu.
C'est vrai, ça. Il ne parle jamais du diable dans les dialogues qui suivent.
À aucun moment dans les 40 chapitres suivants, quiconque sur Terre n'émet l'hypothèse qu'un démon caché agirait dans l'ombre.
C'est une charge intellectuelle et théologique immense pour quiconque lit ça aujourd'hui.
Ça détruit notre filet de sécurité théologique, oui.
Ça signifie qu'on ne peut plus utiliser l'image d'un diable indépendant et maléfique comme une sorte de bouc émissaire pratique pour dédouaner Dieu de l'existence de la souffrance.
On ne peut plus dire c'est la faute du malin quand on lit ce prologue.
Et si on regarde la scène du Conseil céleste de très près, j'imagine qu'on ne décèle aucune nuance émotionnelle entre le créateur et ce challenger au moment de sceller le sort de Job.
C'est un détail crucial. Walton souligne très bien cette absence d'émotionnalité dans la narration.
Parce que nous, on imagine toujours une tension dramatique de fou.
Bien sûr. Les lecteurs modernes projettent souvent un drame cosmique intense sur cette scène. On imagine un diable exultant de joie malsaine et un dieu acceptant le défi, la mort dans l'âme, le cœur lourd de chagrin pour son pauvre serviteur.
Avec une petite musique dramatique en fond.
Mais le texte est aride à sujet. Aucun des deux intervenants ne fait preuve de la moindre compassion apparente.
C'est juste clinique.
Le challenger soumet son rapport d'évaluation des risques liés à la politique de rétribution. Il propose un test de résistance extrême et le souverain l'approuve formellement.
Juste pour prouver l'intégrité de la création humaine.
C'est une transaction bureaucratique, exécutée sans état d'âme visible dans le récit d'introduction.
Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Pourquoi est-il si vital pour quiconque aborde ce texte aujourd'hui de faire cette séparation super nette entre l'imagerie du diable de la pop culture et ce fameux challenger fonctionnaire de l'Antiquité?
Parce que ça change le but même de l'œuvre.
En quoi le fait de recadrer l'identité d'un seul personnage dans l'introduction modifie la trajectoire complète du livre?
Ça soulève une question importante sur notre méthodologie de lecture. Le docteur Walton explique que le personnage du challenger est ce qu'on appelle un construit littéraire.
C'est-à-dire?
Un outil narratif spécifiquement conçu pour le public israélite de cette époque. Le concept d'une entité spirituelle cosmique incarnant le mal absolu et portant le nom propre de Satan n'apparaît que beaucoup, beaucoup plus tard dans l'histoire des idées religieuses.
D'accord. Pour être clair sur la chronologie pour notre audience, à quelle époque historique on voit émerger ce concept spécifique du grand adversaire maléfique ?
Cette évolution se produit principalement durant la période dite du Second Temple.
Donc entre les deux testaments, en gros.
C'est ça. Dans les siècles qui séparent la fin de la rédaction de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament.
Ok.
On le voit très clairement dans la littérature apocalyptique et pseudo-épigraphique de cette période. Sous diverses influences culturelles et historiques, l'idée d'un adversaire ténébreux rebelle commence à se cristalliser.
Ça s'est construit avec le temps.
Oui. Il est donc fondamentalement erroné et historiquement anachronique d'analyser le livre de Job en utilisant les paradigmes théologiques du monde gréco-romain du 1er siècle. Ou pire, de l'Europe médiévale.
C'est un peu comme regarder un drame théâtral intimiste, écrit au XVIIe siècle sous Molière ou Shakespeare, et s'étonner de ne pas voir des extraterrestres ou des vaisseaux spatiaux débarquer au milieu de la scène.
L'anachronisme parfait, oui.
Ça n'a aucun sens d'exiger qu'une œuvre contienne des concepts que son propre créateur, et son public cible d'ailleurs, n'avaient même pas encore imaginés.
C'est absurde en termes d'analyse littéraire.
Projeter notre théologie moderne sur le prologue de Job, c'est comme exiger des effets spéciaux littéraires qui n'existaient pas à l'époque.
La comparaison illustre parfaitement le problème. Et la conséquence de cette projection, c'est qu'elle est destructrice pour le sens même de l'œuvre.
Comment ça ?
En réalité, le Challenger n'a quasiment aucune importance théologique dans le message global du livre de Job.
Il est juste là au début, en fait.
Exactement. Il disparaît totalement de l'histoire après le deuxième chapitre. Son seul rôle est de servir de déclencheur littéraire.
Il plante le décor.
Il plante le décor pour initier la véritable exploration philosophique qui va prendre 40 chapitres de dialogue. Le docteur Walton martèle que ce livre n'a jamais eu pour but d'enseigner que le diable serait le responsable secret de nos malheurs terrestres.
Donc si on se fixe sur ce diable imaginaire, on rate tout le reste.
Focaliser son attention sur ce personnage mineur et chercher à le diaboliser à tout prix, c'est court-circuiter le véritable message de l'auteur.
Parce que pointer du doigt à grand méchant invisible, ça permet d'esquiver la véritable confrontation beaucoup plus inconfortable que le texte nous impose.
La confrontation avec Dieu ?
Oui, avec les questions de justice, divine, de hasard et de la nature même de la souffrance. C'est plus facile de dire « c'est la faute du démon ».
Exactement. Le livre explore la souffrance extrême, non pas comme le résultat d'un assaut démoniaque, mais comme le seul creuset capable de tester le métal véritable de la droiture humaine.
Un test épistémologique. La souffrance n'est pas une punition, ni une attaque ennemie ici. C'est le moyen rugueux, brutal et douloureux par lequel on peut répondre formellement, sur Terre, à la question théorique posée dans la froideur de la salle de conseil céleste. C'est une réorientation totale de la grille de lecture. Genre, on commence l'analyse en croyant affronter l'incarnation d'un mal chaotique tapi dans l'ombre pour détruire les hommes.
Et on réalise qu'on est à côté de la plaque.
Complètement. On découvre qu'on fait face à un auditeur cosmique, un simple titre administratif au sein d'une immense bureaucratie divine, dont la seule fonction est de tester la validité structurelle d'une politique de récompense.
C'est beaucoup moins cinématographique, mais c'est le texte.
On réalise surtout que ce récit magistral a été pensé, conçu et écrit pour une audience qui ne concevait même pas l'existence du diable moderne. Les mots, la grammaire, le contexte, tout reprend sa place, et le texte retrouve sa voix originelle.
C'est là toute la puissance d'une analyse contextuelle rigoureuse. C'est le seul moyen de respecter la voix de l'auteur antique.
Et de ne pas s'en servir comme d'un miroir de nos propres peurs.
Voilà, de ne pas transformer son œuvre en un miroir déformant de nos propres angoisses contemporaines.
Pour quiconque cherche à s'approprier la profondeur de la littérature antique, franchement, c'est une sacrée leçon de méthode.
Une belle leçon d'humilité face au texte aussi.
Absolument. Et avant de refermer cette exploration, il semble pertinent de s'arrêter sur une réflexion qui émerge de cette redéfinition.
La fameuse question qui dérange ?
Oui, parce que si on suit avec rigueur cette lecture originelle, la souffrance insoutenable de Job n'est pas le résultat d'une brèche chaotique dans l'ordre de l'univers.
Ce n'est pas un accident cosmique.
Elle n'est pas non plus l'attaque perfide d'une entité maléfique indépendante. Elle est au contraire un test de résistance extrême qui a été délibérément approuvé, validé et assumé de bout en bout par l'autorité suprême et absolue de l'univers.
Une autorité qui, et il faut le rappeler avec force, comme le fait Walton, revendique l'entière responsabilité de cette mise à l'épreuve sans jamais se cacher derrière un subordonné.
C'est là que réside le véritable vertige philosophique de ce texte, je trouve. Face aux tragédies inexplicables de l'existence, on peut légitimement s'interroger.
C'est une question lourde de sens.
Est-ce que cette vision antique rend l'expérience de la souffrance humaine plus supportable ? Parce qu'on peut s'accrocher à l'idée qu'elle possède une finalité précise, qu'elle est sous le contrôle strict et minutieux d'un conseil céleste hyper organisé ?
Ou bien est-ce l'inverse ?
Ou bien, à l'inverse, est-ce que cela rend la nature de l'univers infiniment plus terrifiante, en plaçant l'humanité face à un système divin d'une telle froideur bureaucratique qu'il se montre prêt à démanteler la vie d'un innocent parfait uniquement pour valider une théorie de gouvernance ?
C'est une perspective glaçante qui bouleverse pas mal de dogmes réconfortants.
C'est une pensée dense, complexe, mais qui invite à une profonde méditation pour quiconque cherche un sens au milieu des tempêtes de la vie. Je pense que notre audience a de quoi réfléchir.
Oui, c'est tout l'intérêt de replonger dans ces textes avec un regard neuf.
Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée des sources antiques avec nous aujourd'hui. À la prochaine pour une nouvelle plongée.